Théophile Gautier, après la préface enregistrée auparavant, voici maintenant le roman. Chapitre 1. Tu te plains, mon cher ami, de la rareté de mes lettres. Que veux-tu que je t'écrive, sinon que je me porte bien et que j'ai toujours la même affection pour toi? Ce sont choses que tu sais parfaitement, et qui sont si naturelles à l'âge que j'ai, et avec les belles qualités qu'on te voit, qu'il y a presque du ridicule à faire parcourir sans lieu à une misérable feuille de papier pour ne rien dire de plus. J'ai beau chercher, je n'ai rien qui vaille la peine d'être rapporté. Ma vie, oh, la plus unie du monde, et rien n'en vient couper la monotonie. Aujourd'hui amène demain, comme hier avait amené aujourd'hui. Et, sans avoir la fatuité d'être prophète, je puis prédire hardiment le matin ce qui m'arrivera le soir. Voilà la disposition de ma journée. Je me lève, cela va sans dire, et c'est le commencement de toute journée. Je déjeune, je fais des armes, je sors, je range, je dîne, fais quelques visites ou m'occupe de quelques lectures. Puis je me couche précisément comme j'avais fait la veille, je m'endors, et mon imagination, n'étant pas excitée par des objets nouveaux, ne me fournit que des songes usés, rebattus, aussi monotones que ma vie réelle. Cela n'est pas fort récréatif, comme tu vois. Cependant, je m'accommode mieux de cette existence que je n'aurais fait il y a 6 mois. Je m'ennuie, il est vrai, mais d'une manière tranquille et résignée, qui ne manque pas d'une certaine douceur, que je comparais assez volontiers à ces jours d'automne pâles et tièdes, auxquels on trouve un charme secret après les ardeurs excessives de l'été. Cette existence-là, quoique je l'aie acceptée en apparence, n'est guère faite pour moi, cependant, ou du moins, elle ressemble fort peu à celle que je me rêve et à laquelle je me crois propre. Peut-être me tromper-je et ne suis-je tout effectivement fait que pour ce genre de vie, mais j'ai peine à le croire, car si c'était ma vraie destinée, je m'y serais plus aisément emboîté, et je n'aurais pas été meurtri par ces angles à tant d'endroits et si douloureusement. Tu sais comme les aventures étranges ont un attrait tout-puissant sur moi, comme j'adore tout ce qui est singulier, excessif et périlleux, et avec quelle avidité je dévore les romans, les histoires de voyage. Il n'y a peut-être pas sur la terre de fantaisie plus folle et plus vagabonde que la mienne. Eh bien, je ne sais par quelle fatalité cela s'arrange. Je n'ai jamais eu une aventure. Je n'ai jamais fait un voyage. Pour moi, le tour du monde est le tour de la ville où je suis. Je touche mon horizon de tous les côtés. Je me coudoie avec le réel. Ma vie est celle du coquillage sur le banc de sable, du lierre autour de l'arbre, du grillon dans la cheminée. En vérité, je suis étonné que mes pieds n'aient pas encore pris racine. On peint l'amour avec un bandeau sur les yeux. C'est le destin qu'on devrait peindre ainsi. J'ai pour valet une espèce de manant assez lourd et assez stupide qui a autant couru que le vent de bise, qui a été au diable je ne sais où, qui a vu de ses yeux tout ce dont je me forme si belles idées et sans souci comme d'un verre d'eau. Il s'est trouvé dans les situations les plus bizarres, il a eu les plus étonnantes aventures qu'on puisse avoir. Je le fais parler quelquefois, et j'enrage en pensant que toutes ces belles choses sont arrivées à un buteur qui n'est capable ni de sentiments ni de réflexion et qui n'est bon qu'à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire à battre des habits et à décrotter des bottes. Il est évident que la vie de ce maraud devait être la mienne. Pour lui, il me trouve fort heureux et entre en de grands étonnements de me voir triste comme je suis. Tout cela n'est pas fort intéressant, mon pauvre ami, et ne vaut guère la peine d'être écrit, n'est-ce pas? Mais puisque tu veux absolument que je t'écrive, il faut bien que je te raconte ce que je pense et ce que je sens, et que je te fasse l'histoire de mes idées à défaut d'événements et d'actions. Il n'y aura peut-être pas grand ordre ni grande nouveauté dans ce que j'aurai à te dire, mais il faudra t'en prendre qu'à toi. Tu l'auras voulu. Tu es mon ami d'enfance. J'ai été élevé avec toi. Notre vie a été commune bien longtemps et nous sommes accoutumés à échanger nos plus intimes pensées. Je puis donc te conter, sans rougir, toutes les niaiseries qui traversent ma cervelle inoccupée. Je n'ajouterai pas un mot, je ne retrancherai pas un mot, et je n'ai pas d'amour propre avec toi. Aussi je serai exactement vrai, même dans les choses petites et honteuses. Ce n'est pas devant toi, à coup sûr, que je me draperai. Sous ce linceul d'ennui nonchalant et affaissé dont je t'ai parlé tout à l'heure, remue parfois une pensée plutôt engourdie que morte, et je n'ai pas voulu le calme doux et triste que donne la mélancolie. J'ai des rechutes, et je retombe dans mes anciennes agitations. Rien n'est fatigant au monde comme ces tourbillons sans motif et ces élans sans but. Ces jours-là, quoique je n'ai rien à faire non plus que les autres, je me lève de très grand matin avant le soleil, tant il me semble que je suis pressé et que je n'aurai jamais le temps qu'il faut. Je m'habille en toute hâte, comme si le feu était à la maison, mettant mes vêtements au hasard et me lamentant pour une minute perdue. Quelqu'un qui me verrait croirait que je vais à un rendez-vous d'amour ou chercher de l'argent. Point du tout. Je ne sais pas seulement où j'irai, mais il faut que j'aille. Et je croirais mon salut compromis si je restais. Il me semble que l'on m'appelle du dehors, que mon destin passe à cet instant dans la rue, et que la question de ma vie va se décider. Je descends, l'air effaré et surpris, les habits en désordre, les cheveux mal peignés. Les gens se retournent et rient à ma rencontre et pensent que c'est un jeune débauché qui a passé la nuit à la taverne ou ailleurs. Je suis ivre, en effet, quoique je n'ai pas bu, et j'ai d'un ivrogne jusqu'à la démarche incertaine, tantôt lent, tantôt rapide. Je vais de rue en rue comme un chien qui a perdu son maître, cherchant à tout hasard, très inquiet, très en éveil, me retournant au moindre bruit, me glissant dans chaque groupe sans prendre souci des rebuffades des gens que je heurte, et regardant partout avec une netteté de vision que je n'ai pas dans d'autres moments. Puis il m'est démontré tout d'un coup que je me trompe, que ce n'est pas là assurément qu'il faut aller plus loin, à l'autre bout de la ville, que sais-je. Et je prends ma course comme si le diable m'emportait. Je ne touche sol que du bout des pieds et ne pèse pas une once. Je dois en vérité avoir l'air singulier avec ma mine affairée et furieuse, mes bras gesticulants et les cris inarticulés que je pousse. Quand j'y songe de sang-froid, je me ris au nez à moi-même de tout mon cœur, ce qui ne m'empêche pas, je te prie de le croire, de recommencer à la prochaine occasion. Si l'on me demandait pourquoi je cours, je serais certainement fort embarrassé de répondre. Je n'ai pas de hâte d'arriver puisque je ne vais nulle part. Je ne crains pas d'être en retard puisque je n'ai pas d'heure. Personne ne m'attend et je n'ai aucune raison de me presser ici. Est-ce une occasion d'aimer, une aventure, une femme, une idée ou une fortune, quelque chose qui manque à ma vie et que je cherche sans m'en rendre compte et poussé par un instinct confus? Est-ce mon existence qui se veut compléter? Est-ce l'envie de sortir de chez moi et de moi-même? L'ennui de ma situation, les désirs d'une autre? C'est quelque chose de cela, et peut-être tout cela ensemble. Toujours est-il que c'est un état fort déplaisant, une irritation fébrile à laquelle succède ordinairement la plus plate atonie. Souvent j'ai cette idée que si j'étais parti une heure plus tôt ou si j'avais doublé le pas, je serais arrivé à temps, que pendant que je passais par cette rue, ce que je cherche passait par l'autre et qu'il a suffi d'un embarras de voiture pour me faire manquer ce que je poursuis à tout hasard depuis si longtemps. Tu ne peux t'imaginer les grandes tristesses et les profonds désespoirs où je tombe, quand je vois que tout cela n'aboutit à rien, et que ma jeunesse se passe, et qu'aucune perspective ne s'ouvre devant moi, alors toutes mes passions inoccupées grondent sourdement dans mon cœur, et se développent entre elles, faute d'autres aliments, comme les bêtes d'une ménagerie auxquelles le gardien a oublié de donner leur nourriture. Malgré les désappointements étouffés et souterrains de tous les jours, il y a quelque chose en moi qui résiste et ne veut pas mourir. Je n'ai pas d'espérance, car pour espérer, il faut un désir, une certaine propension à souhaiter que les choses tournent d'une manière plutôt que d'une autre. Je ne désire rien, car je désire tout. Je n'espère pas, ou plutôt je n'espère plus, cela est trop niais. Et il m'est profondément égal qu'une chose soit ou ne soit pas. J'attends. Quoi ? Oh, oh, je ne sais, mais j'attends. C'est une attente frémissante, pleine d'impatience, coupée de soubresauts et de mouvements nerveux, comme doit l'être celle d'un amant qui attend sa maîtresse. Mais rien ne vient. J'entre en furie ou me mets à pleurer. J'attends que le ciel s'ouvre et qu'il en descende un ange, qui me fasse une révélation, qu'une révolution éclate et qu'on me donne un trône, qu'une vierge de Raphaël se détache de sa toile et me vienne embrasser, que des parents que je n'ai pas meurent et me laissent de quoi faire voguer ma fantaisie sur un fleuve d'or, qu'un hippogriffe me prenne et m'emporte dans des régions inconnues. Mais quoi que j'attende, ce n'est à coup sûr rien d'ordinaire et de médiocre. Cela est poussé au point que, lorsque je rentre chez moi, je ne manque jamais à dire « Il n'est venu personne, il n'y a pas de lettre pour moi, rien de nouveau. » Je sais parfaitement qu'il n'y a rien, qu'il ne peut rien y avoir. C'est égal, je suis toujours fort surpris et fort désappointé quand on me fait la réponse habituelle. « Non, monsieur, absolument rien. » Quelquefois, cependant cela est rare, l'idée se précise davantage. Ce sera quelque belle femme que je ne connais pas et qui ne me connaît pas, avec qui je me serai rencontré au théâtre ou à l'église, et qui n'aura pas pris garde à moi, le moins du monde. Or, je parcours toute la maison, et jusqu'à ce que j'aie ouvert la porte de la dernière chambre, j'ose à peine le dire, tant cela est fou, j'espère qu'elle est venue et qu'elle est là. Ce n'est pas fatuité de ma part. Je suis si peu fat que plusieurs femmes se sont préoccupées fort doucement de moi, à ce que d'autres personnes m'ont dit que je croyais très indifférente à mon égard et n'avoir jamais rien pensé de particulier sur mon propos. Cela vient d'autre part. Quand je ne suis pas hébété par l'ennui et le découragement, mon âme se réveille et reprend toute son ancienne vigueur. J'espère, j'aime, je désire, et mes désirs sont tellement violents que je m'imagine qu'ils feront tout venir à eux comme un aimant doué d'une grande puissance attire à lui les parcelles de fer, encore qu'elles en soient fort éloignées. C'est pourquoi j'attends les choses que je souhaite au lieu d'aller à elles, et je néglige assez souvent les facilités qui s'ouvrent le plus favorablement devant mes espérances. Un autre écrirait un billet, le plus amoureux du monde, à la divinité de son cœur, où chercherait l'occasion de s'en rapprocher. Moi, je demande au messager la réponse à une lettre que je n'ai pas écrite, et je passe mon temps à bâtir dans ma tête les situations les plus merveilleuses pour me faire voir à celle que j'aime sous le jour le plus inattendu et le plus favorable. Offert est un livre plus gros et plus ingénieux que les stratagèmes de Polybe, de tous les stratagèmes que j'imagine pour m'introduire auprès d'elle et lui découvrir ma passion. Il suffirait le plus souvent de dire à un de mes amis « Présentez-moi chez madame une telle » et d'un compliment mythologique convenablement ponctué de soupirs. Entendre tout cela, on me croirait propre à mettre aux petites maisons. Je suis cependant assez raisonnable garçon, et je n'ai pas mis beaucoup de folie en action. Tout cela se passe dans les caves de mon âme, et toutes ces idées saugrenues sont ensevelies très soigneusement au fond de moi. Du dehors, on ne voit rien, et j'ai la réputation d'un jeune homme tranquille et froid, peu sensible aux femmes et indifférent aux choses de son âge, ce qui est aussi loin de la vérité que le sont habituellement les jugements du monde. Cependant, malgré toutes les choses qui m'ont rebuté, quelques-uns de mes désirs se sont réalisés, et par le peu de joie que leur accomplissement m'a causé, j'en suis venu à craindre l'accomplissement des autres. Tu te souviens de l'ardeur enfantine avec laquelle je désirais avoir un cheval à moi? Ma mère m'en a donné un tout dernièrement. Il est noir d'ébène, une petite étoile blanche au front, à tout crin, le poil luisant, la jambe fine, précisément comme je le voulais. Quand on me l'a amené, cela m'a fait un tel saisissement que je suis resté un grand quart d'heure tout pâle, sans me pouvoir remettre. Puis j'ai monté dessus, et sans dire un seul mot, je suis parti au grand galop, et j'ai couru plus d'une heure devant moi, à travers champs, dans un ravissement difficile à concevoir. J'en ai fait tous les jours autant pendant plus d'une semaine, et je ne sais pas en vérité comment je ne l'ai pas fait crever ou rendu tout au moins poussif. Eh bien, peu à peu, toute cette grande ardeur s'est apaisée. J'ai mis mon cheval au trot, puis au pas, puis j'en suis venu à le monter si nonchalamment que souvent il s'arrête et que je m'en aperçois pas. Le plaisir s'est tourné en habitude beaucoup plus promptement que je ne l'aurais cru. Quant à Ferragus, c'est ainsi que je l'ai nommé, c'est bien la plus charmante bête que l'on puisse voir. Il a des barbes aux pieds comme du duvet d'aigle. Il est vif comme une chèvre et doux comme un agneau. Tu auras le plus grand plaisir à galoper dessus quand tu viendras ici. Et quoique ma fureur d'équitation soit bien tombée, je l'aime toujours beaucoup, car il a un très estimable caractère de cheval, et je le préfère sincèrement à beaucoup de personnes. Si tu entendais comme il ennie joigneusement quand je vais le voir à son écurie, et avec quels yeux intelligents il me regarde, j'avoue que je suis touché de ces témoignages d'affection, que je lui prends le cou et que je l'embrasse aussi tendrement, ma foi, que si c'était une belle fille. J'avais aussi un autre désir, plus vif, plus ardent, plus perpétuellement éveillé, plus chèrement caressé, et auquel j'avais bâti dans mon âme un ravissant château de cartes, un palais de chimères, détruit bien souvent et relevé avec une constance désespérée. C'était d'avoir une maîtresse tout à fait à moi, comme le cheval. Je ne sais pas si la réalisation de ce rêve m'aurait aussi promptement prouvé froid que la réalisation de l'autre, j'en doute. Mais peut-être ai-je tort et en serais-je aussi vite lassé. Par une disposition spéciale, je désire si frénétiquement ce que je désire, sans toutefois rien faire pour me le procurer, que si par hasard ou autrement j'arrive à l'objet de mon vœu, j'ai une courbature morale si forte et suis tellement harassé qui me prend les défaillances et que je n'ai plus assez de vigueur pour en jouir. Aussi, les choses qui me viennent sans que je les aie souhaitées me font-elles ordinairement plus de plaisir que celles que j'ai le plus ardemment convoitées. J'ai 22 ans, je ne suis pas vierge. Hélas, on ne l'est plus à cet âge-là maintenant, ni de corps, ni de cœur, ce qui est bien pis. Outre celles qui font plaisir aux gens pour la somme qui ne doivent pas plus compter qu'un rêve lascif, j'ai bien eu par-ci par-là, dans quelques coins obscurs, quelques femmes honnêtes ou à peu près, ni belles, ni laides, ni jeunes, ni vieilles, comme il s'en offre aux jeunes gens qui n'ont point d'affaires réglées et dont le cœur est dans le désœuvrement. Avec un peu de bonne volonté, une assez forte dose d'illusion romanesque, on appelle cela une maîtresse, si l'on veut. Quant à moi, ce m'est une chose impossible, et j'en aurais 1000 de cette espèce que je n'en croirais pas moins mon désir aussi inaccompli que jamais. Je n'ai donc pas encore eu de maîtresse, et tout mon désir est d'en avoir une. C'est une idée qui me tracasse singulièrement. Ce n'est pas effervescence de tempérament, bouillon du sang, premier épanouissement de puberté. Ce n'est pas la femme que je veux. C'est une femme, une maîtresse. Je la veux. Je l'aurai d'ici à peu. Si je ne réussissais pas, je t'avoue que je ne me relèverais pas de là et que je regarderais devant moi-même une timidité intérieure, un découragement sourd qui influerait gravement sur le reste de ma vie. Je me croirais manqué sous de certains rapports inharmoniques ou dépareillés, contrefaits d'esprit ou de cœur. Car enfin, ce que je me demande est juste, et la nature le doit à tout homme. Tant que je ne serai pas parvenu à mon but, je ne me regarderai moi-même que comme un enfant, et je n'aurai pas en moi la confiance que j'y dois avoir. Une maîtresse pour moi, c'est la robe virile pour un jeune Romain. Je vois tant d'hommes ignobles sous tous les rapports, avoir de belles femmes, dont ils sont à peine dignes d'être les laquais, que la rougeur m'en monte au front pour elles et pour moi. Cela me fait prendre une pitoyable opinion des femmes, de les voir s'enticher de tels goujats qui les méprisent et les trompe, plutôt que de se donner à quelque jeune homme loyal et sincère, qui s'estimerait fort heureux et les adorerait à genoux, moi par exemple. Il est vrai que ces espèces encombrent les salons, font la roue devant tous les soleils et sont toujours couchées au dos de quelques fauteuils, tandis que moi, je reste à la maison, le front appuyé contre la vitre, à regarder fumer la rivière et monter le brouillard, tout en élevant silencieusement dans mon cœur le sanctuaire parfumé, le temple merveilleux où je dois loger l'idole future de mon âme. Chaste et poétique occupation, dont les femmes vous savent aussi peu gré que possible. Les femmes ont fort peu de goût pour les contemplateurs, et prient singulièrement ceux qui mettent leurs idées en action. Après tout, elles n'ont pas tort. Obligées par leur éducation et leur position sociale à se taire et à attendre, elles préfèrent naturellement ceux qui viennent à elles et parlent. Ils les tirent d'une situation fausse et ennuyeuse. Je sens tout cela, mais jamais de ma vie je ne pourrais prendre sur moi, comme j'en vois beaucoup qu'ils font, de me lever de ma place, de traverser un salon et d'aller dire inopinément à une femme « Votre robe vous va comme un ange » ou « Vous avez tort ce soir les yeux d'un lumineux particulier. » Tout cela n'empêche pas qu'il ne me faille absolument une maîtresse. Je ne sais pas ce qui sera, mais je ne vois personne dans les femmes que je connais qui puisse convenablement remplir cette importante dignité. Je ne leur trouve que très peu des qualités qu'il me faut. Celles qui auraient assez de jeunesse n'ont pas assez de beauté ou d'agrément dans l'esprit. Celles qui sont belles et jeunes sont d'une vertu ignoble et rebutante ou manquent de la liberté nécessaire. Et puis il y a toujours par là quelques maris, quelques frères, quelques mères ou quelques tantes, je ne sais quoi, qui a de gros yeux, de grandes oreilles et qu'il faut amadouer ou jeter par la fenêtre. Toute rose a son puceron, toute femme a l'état des parents dont il faut les chenillersoigneusement si l'on veut cueillir un jour le fruit de sa beauté. Il n'y a pas jusqu'aux arrières petits cousins de la province et qu'on n'a jamais vu, qui ne veuille maintenir dans toute sa blancheur la pureté immaculée de la chère cousine. Cela est nauséabond, et je n'aurai jamais la patience qu'il faut pour arracher toutes les mauvaises herbes et élaguer toutes les ronces qui obstruent fatalement les avenues d'une jolie femme. Je n'aime pas beaucoup les mamans, et j'aime encore moins les petites filles. Je dois avouer aussi que les femmes mariées n'ont qu'un très médiocre attrait pour moi. Il y a là-dedans une confusion et un mélange qui me révoltent. Je ne puis souffrir cette idée de partage. La femme qui a un mari et un amant est une prostituée pour l'un des deux, et souvent pour tous deux. Et puis je ne saurais consentir à céder la place à un autre. Ma fierté naturelle ne saurait se plier à un tel abaissement. Jamais je ne m'en irais parce qu'un autre homme arrive. Dût la femme être compromise et perdue, dussions-nous nous battre à coups de couteau, chacun pillé sur son corps, je resterai. Les escaliers dérobés, les armoires, les cabinets et toutes les machines de l'adultère seraient de pauvres ressources avec moi. Je suis peu épris de ce qu'on appelle candeur virginale, innocence du bel âge, pureté de cœur et autres charmantes choses qui sont du plus bel effet envers. J'appelle tout bonnement cela niaiserie, ignorance, imbécillité ou hypocrisie. Cette candeur virginale, qui consiste à s'asseoir tout au bord du fauteuil, les bras serrés contre le corps, l'œil sur la pointe du corset, et à ne parler que sur un permis des grands-parents. Cette innocence qui a le monopole des cheveux sans frisure et des robes blanches, cette pureté de cœur qui porte des corsages décolletés parce qu'elle n'a pas encore de gorge ni d'épaule, ne me paraissent pas en vérité un fort meilleur ragoût. Je me soucie assez peu de faire épeler l'alphabet d'amour à nos petites nièces. Je ne suis ni assez vieux ni assez corrompu pour prendre grand plaisir à cela. J'y réussirais mal d'ailleurs, car je n'ai jamais rien su montrer à personne, même ce que je savais le mieux. Je préfère les femmes qui lisent couramment. On est plutôt arrivé à la fin du chapitre. Et en toutes choses, et surtout en amour, ce qu'il faut considérer, c'est la fin. Je ressemble assez de ce côté-là à ces gens qui prennent le roman par la queue et en lisent tout d'abord le dénouement, sauf à rétrograder ensuite jusqu'à la première page. Cette manière de lire et d'aimer a son charme. On savoure mieux les détails quand on est tranquille sur la fin, et le renversement amène l'imprévu. Voilà donc les petites filles et les femmes mariées exclues de la catégorie. Ce sera donc parmi les veuves que nous choisirons notre divinité. Hélas, j'ai bien peur, quoiqu'il ne reste plus que cela, que nous n'y trouvions pas encore ce que nous voulons. Si je venais à aimer un de ces pâles narcisses, tout baigné d'une tiède rosée de pleurs, et se penchant avec une grâce mélancolique sur le tombeau de marbre neuf de quelque mari heureusement et fraîchement décédé, je serais certainement, et au bout de peu de temps, aussi malheureux que l'époux défunt en son vivant. Les veuves, si jeunes et si charmantes qu'elles soient, ont un terrible inconvénient que n'ont pas les autres femmes. Pour peu que l'on ne soit pas au mieux avec elles, et qu'il passe un nuage dans le ciel d'amour, elles vous disent tout de suite avec un petit air superlatif et méprisant: Oh, comme vous êtes aujourd'hui, c'est absolument comme monsieur. Quand nous nous querellions, il n'avait pas autre chose à me dire. C'est singulier, vous avez le même son de voix et le même regard. Quand vous prenez de l'humeur, vous ne sauriez vous imaginer combien vous ressemblez à mon mari. Oh, c'est à faire peur. Cela est agréable de s'entendre dire de ces choses-là, en face et à bout portant. Il y en a même qui poussent l'impudence jusqu'à louer le défunt comme une épitaphe et à exalter son cœur et sa jambe aux dépens de votre jambe et de votre cœur. Au moins, avec les femmes qui n'ont qu'un ou plusieurs amants, on a cet ineffable avantage de ne s'entendre jamais parler de son prédécesseur, ce qui n'est pas une considération d'un médiocre intérêt. Les femmes ont un trop grand amour du convenable et du légitime pour ne pas se taire soigneusement en pareille occurrence, et toutes ces choses sont mises le plus haut possible au rang des olimes. Il est bien entendu qu'on est toujours le premier amant d'une femme. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de sérieux à répondre à une aversion aussi bien fondée. Ce n'est pas que je trouve les veuves tout à fait sans agrément quand elles sont jeunes et jolies et n'ont point encore quitté le deuil. Ce sont de petits airs languissants, de petites façons de laisser tomber les bras, de ployer le cou et de se rengorger comme une tourterelle dépareillée. Un tas de charmantes minauderies, doucement voilées sous la transparence du crêpe, une coquetterie de désespoir si bien entendue, et des soupirs si adroitement ménagés, et des larmes qui tombent si à propos et donnent aux yeux tant de brillants. Certes, après le vin, si ce n'est avant, la liqueur que j'aime le mieux à boire est une belle larme bien limpide et bien claire, qui tremble au bout d'un cil brun ou blonde. Le moyen qu'on résiste à cela, on n'y résiste pas. Et puis le noir va si bien aux femmes. La peau blanche, poésie à part, tourne à l'ivoire, à la neige, au lait, à l'albâtre, enfin tout ce qu'il y a de candide au monde, à l'usage des faiseurs de madrigaux. La peau bise n'a plus qu'une pointe de brun pleine de vivacité et de feu. Un deuil est une bonne fortune pour une femme. Et la raison pourquoi je ne me marierai jamais, c'est de peur que ma femme ne se défasse de moi pour porter mon deuil. Il y a cependant des femmes qui ne savent point tirer parti de leur douleur et pleurent de façon à se rendre le nez rouge et à se décomposer la figure comme les mascarons qu'on voit aux fourtaines. C'est un grand écueil. Il faut beaucoup de charme et d'art pour pleurer agréablement. Faute de cela, l'on court risque d'être pas consolé de longtemps. Si grand néanmoins que soit le plaisir de rendre quelque Artémise infidèle à l'ombre de son mausole, je ne veux pas décidément choisir parmi cet essaim gémissant celle à qui je demanderai son cœur en échange du mien. Alors je t'entends dire d'ici, à que prendras-tu donc? Tu ne veux ni des jeunes personnes, ni des femmes mariées, ni des veuves. Tu n'aimes pas les mamans, je ne présume pas que tu aimes mieux les grand-mères, mais que diable aimes-tu donc? C'est le mot de la charade. Si je le savais, je ne me tourmenterais pas tant. Jusqu'ici, je n'ai aimé aucune femme, mais j'ai aimé et j'aime l'amour. Quoique je n'ai pas eu de maîtresse et que les femmes que j'ai eues ne m'aient inspiré que du désir, j'ai éprouvé et je connais l'amour même. Je n'aimais pas celle-ci ou celle-là, l'une plutôt que l'autre, mais quelqu'une que je n'ai jamais vue et qui doit exister quelque part, et que je trouverai, s'il plaît à Dieu. Je sais bien comme elle est, et quand je la rencontrerai, je la reconnaîtrai. Je me suis figuré bien souvent l'endroit qu'elle habite, le costume qu'elle porte, les yeux et les cheveux qu'elle a. J'entends sa voix, je reconnaîtrai son pas entre mille autres, et si par hasard quelqu'un prononçait son nom, je me retournerai. Il est impossible qu'elle n'ait pas un de ces cinq ou six noms que je lui ai assignés dans ma tête. Elle a 26 ans. Pas plus, ni moins non plus. Elle n'est plus ignorante, et n'est pas encore blasée. C'est un âge charmant pour faire l'amour comme il faut, sans puérilité, sans libertinage. Elle est d'une taille moyenne. Je n'aime pas une géante ni une naine. Je veux pouvoir porter tout seul ma déité de sofa au lit, mais il me plairait de l'y chercher. Il faut que, se haussant un peu sur la pointe du pied, sa bouche soit à la hauteur de mon baiser. Oh, c'est la bonne taille. Quant à son embonpoint, elle est plutôt grasse que maigre. Je suis un peu turc sur ce point, et il me plairait guère de rencontrer une arête où je cherche un contour. Il faut que la peau d'une femme soit bien remplie, sa chair dure et ferme comme la pulpe d'une pêche un peu verte. C'est exactement ainsi qu'est faite la maîtresse que j'aurai. Elle est blonde avec des yeux noirs, blanche comme une blonde, colorée comme une brune, quelque chose de rouge et le scintillant dans le sourire. La lèvre inférieure un peu large, la prunelle nageant dans un flot d'humide radical, la gorge ronde et petite, et en arrêt, les poignets minces, les mains longues et potelées, la démarche onduleuse comme une couleuvre debout sur sa queue, les hanches étoffées et mouvantes, l'épaule large, le derrière du cou couvert de duvet. Un caractère de beauté fin et ferme à la fois, élégant et vivace, poétique et réel. Un motif de Giorgione exécuté par Rubens. Voici son costume. Elle porte une robe de velours écarlate ou noire, avec des crevés de satin blanc ou de toile d'argent, un corsage ouvert, une grande fraise à la Médicis, un chapeau de feutre capricieusement rompu, comme celui d'Helena Sisterman, et de longues pluches blanches frisées et crépelées, une chaîne d'or ou une rivière de diamants au cou, et quantité de grosses bagues de différents émaux à tous les doigts des mains. Je ne lui ferai pas grâce d'un anneau ou d'un bracelet. Il faut que la robe soit littéralement en velours ou en brocart. C'est tout au plus si je lui permettrais de descendre jusqu'au satin. J'aime mieux chiffonner une jupe de soie qu'une jupe de toile, et faire tomber d'une tête des perles ou des plumes que des fleurs naturelles ou un simple nœud. Je sais que la doublure de la jupe de toile est souvent aussi appétissante, au moins, que la doublure de la jupe de soie, mais je préfère la jupe de soie. Aussi, dans mes rêveries, je me suis donné pour maîtresse bien des reines, bien des impératrices, bien des princesses, bien des sultanes, bien des courtisanes célèbres, mais jamais des bourgeoises ou des bergères. Et dans mes désirs les plus vagabonds, je n'ai abusé de personne sur un tapis de gazon ou dans un lit de serge d'aumale. Je trouve que la beauté est un diamant qui doit être monté et enchâssé dans l'or. Je ne conçois pas une belle femme qui n'ait pas voiture, chevaux, laquais et tout ce qu'on a avec 100 000 francs de rente. Il y a une harmonie entre la beauté et la richesse. L'une demande l'autre. Un joli pied appelle un joli soulier. Un joli soulier appelle des tapis et une voiture et ce qui s'ensuit. Une belle femme avec de pauvres habits dans une vilaine maison est selon moi le spectacle le plus pénible qu'on puisse voir. Je ne saurais avoir d'amour pour elle. Il n'y a que les beaux et les riches qui puissent être amoureux sans être ridicules ou à plaindre. À ce compte, peu de gens auraient le droit d'être amoureux. Moi-même, tout le premier, je serais exclu. Cependant, c'est là mon opinion. Ce sera le soir que nous nous rencontrerons pour la première fois, par un beau coucher de soleil. Le ciel aura de ces tons orangés, jaune clair et vert pâle que l'on voit dans quelques tableaux des grands maîtres d'autrefois. Il y aura une grande allée de châtaigniers en fleurs et d'ormes séculaires tout couverts de ramiers. De beaux arbres d'un vert frais et sombre, des ombrages pleins de mystères et de moiteur. Çà et là, quelques statues, quelques vases de marbre se détachant sur le fond de verdure avec leur blancheur de neige, une pièce d'eau où se joue le signe familier, et tout au fond, un château de briques et de pierres comme du temps de Henri IV, toit d'ardoise pointue, haute cheminée, girouette à tous les pignons, fenêtres étroites et longues. À une de ces fenêtres, mélancoliquement appuyée sur le balcon, la reine de mon âme, dans l'équipage que je t'ai décrit tout à l'heure, et derrière elle, un petit nègre tenant son éventail et sa perruche. Tu vois qu'il n'y manque rien et que tout cela est parfaitement absurde. La belle laisse tomber son gant, je le ramasse, le baise et le rapporte. La conversation s'engage, je montre tout l'esprit que je n'ai pas, je dis des choses charmantes, on m'en répond, je réplique, c'est un feu d'artifice, une pluie lumineuse de mots éblouissants. Bref, je suis adorable et adoré. Vient l'heure du souper, on me convie, j'accepte. Quel souper, mon cher ami, et quelle cuisinière que mon imagination! Le vin rit dans le cristal, le faisant doré et blond fume dans un plat armorié. Le festin se prolonge bien avant dans la nuit. Et tu penses bien que ce n'est pas chez moi que je la termine. Te voilà-t-il pas quelque chose de bien imaginé? Rien au monde n'est plus simple. Et en vérité, il est bien étonnant que cela ne soit pas arrivé plutôt 10 fois qu'une. Quelquefois, c'est dans une grande forêt. Voilà la chasse qui passe, le cor sonne, la meute aboie et traverse le chemin avec la rapidité de l'éclair. La belle en Amazone monte un cheval turc, blanc comme le lait, fringant et vif au possible. Bien qu'elle soit excellente écuyère, il piaffe, il caracole, il se cabre, et elle a toutes les peines du monde à le contenir. Il prend le mort aux dents et l'amène droit à un précipice. Je tombe là, du ciel, tout exprès. Je retiens le cheval, je prends dans mes bras la princesse évanouie, je la fais revenir à elle et la reconduis à son château. Quelle est la femme bien née qui refuserait son cœur un homme qui a exposé sa vie pour elle? Aucune. Et la reconnaissance est un chemin de traverse qui mène bientôt vite à l'amour. Tu conviendras au moins que lorsque je donne dans le romanesque, ce n'est pas à demi et que je suis aussi fou qu'il est possible de l'être. C'est toujours cela, car rien au monde n'est plus maussade qu'une folie raisonnable. Tu conviendras aussi que lorsque j'écris des lettres, ce sont plutôt des volumes que de simples billets. En tout, j'aime ce qui dépasse les bornes ordinaires. C'est pourquoi je t'aime. Oh, ne te moque pas trop de toutes les niaiseries que je t'ai griffonnées. Je quitte la plume pour les mettre en action. Car je reviens toujours à mon refrain, je veux avoir une maîtresse. J'ignore si ce sera la dame du parc, la beauté du balcon, mais je te dis adieu pour me mettre en quête. Ma résolution est prise. Du sel que je cherche, caché au fond du royaume de Cathay ou de Samarcande, je saurais bien la dénicher. Je te ferai savoir le succès de mon entreprise ou sa non-réussite. J'espère que ce sera le succès. Fais des vœux pour moi, mon cher ami. Quant à moi, je m'habille de mon plus bel habit et sors de la maison, bien décidé à n'y rentrer qu'avec une maîtresse selon mes idées. J'ai assez rêvé. À l'action maintenant !